Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque.
Une bonne partie de notre existence se déroule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il est même de plus en plus difficile de contester que ceux-ci sont un des lieux privilégiés de l'ensauvagement de la vie sociale. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les campagnes de lynchage se multiplient. Des existences peuvent s'effondrer en quelques heures. Les mécanismes antiques du bannissement et de l'ostracisme sont réactivés par les réseaux sociaux où la logique du bouc émissaire est plus violente que jamais. On parle de plus en plus de « cancel culture ». Pour en parler, je reçois le journaliste David Doucet qui vient de faire paraître chez Albin Michel « La haine en ligne », une enquête très fine et remarquablement documentée sur la violence des réseaux sociaux. David Doucet, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'inviter.
Ah ben c'est un immense plaisir. Alors, question première, tout simplement sur le titre de l'ouvrage. Que définiriez-vous comme la haine en ligne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la haine en ligne qui la distingue de la haine en général telle qu'on la connaît dans nos sociétés?
La haine en ligne, c'est en fait, à travers la haine en ligne, j'ai surtout voulu désigner les lynchages, c'est-à-dire les mécanismes d'ostracisme, de mise à l'index, qui suivent en fait des fois des campagnes de boycott, des campagnes de violence sur les réseaux sociaux, et raconter en fait les rouages de cette mort sociale qui est différente de la vie telle qu'on l'a pu la connaître auparavant, parce qu'avec Internet, Internet garde une trace de tout. Et je pense qu'en fait, ce qu'a changé Internet, c'est l'amplification. C'est-à-dire que il y a toujours eu des campagnes, de haine, que ça soit dans, on peut regrouper trois personnes dans un loft, dans un appartement, ils vont finir par s'engueuler, par se fâcher. C'est dans la nature humaine, en fait, d'avoir des comportements tribaux. Mais Internet a démultiplié cette incitation humaine. Et on se rend compte que les opinions minoritaires et indignés sont plus visibles que la majorité silencieuse. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a une escalade de la violence, une escalade verbale. Et le problème, c'est qu'une fois que cette violence a été distribuée, que les médias s'en sont fait l'écho, Google et les grandes plateformes des réseaux sociaux gardent tout en mémoire. Et du coup, cette humiliation est indélébile. Je pense que c'est ça qui change avec ce qu'on avait pu connaître par le passé, la haine telle qu'elle a pu être perpétrée dans les siècles précédents.
Alors, vous vous intéressez dans l'ouvrage, surtout dans la première partie, à ce qu'on appelle de temps en temps la « cancel culture ». Vous parlez d'une culture de l'annulation, d'autres diraient culture du bannissement. Alors, quelle est cette… Et on en parle beaucoup depuis, je dirais, quelques mois. Ce thème-là s'impose de plus en plus dans l'actualité. Il s'impose au cœur de l'espace public. Quelle est cette fameuse « cancel culture » ou cette culture de l'annulation dont vous nous parlez dans l'ouvrage et dont on parle tant des deux côtés de l'Atlantique depuis quelques mois, peut-être quelques années?
Alors, derrière ce terme, qui est un peu un terme fourre-tout, je trouve, c'est un peu un terme qu'on emploie beaucoup dans les médias, à la fois effectivement les médias anglo-saxons et maintenant les médias français, c'est une pratique sociale qui vise en fait à démonétiser, ça désigne le boycott d'une personne. On essaye de la désinvestir de son influence, de sa réputation, raison d'action, de parole, moralement condamnable. Et en fait, ça provient de la communauté noire américaine au départ, à partir de 2015. Et en fait, c'était au début, c'était aussi sous forme d'humour. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un ami et vous vous dites, je vais l'annuler, je vais le canceller parce que il aime pas les pizzas, par exemple. Ça désignait à la fois, ce terme d'annulation était à la fois utilisé de manière humoristique, mais à la fois, c'est de plus en plus sérieuse pour condamner, en fait, des personnes qui, surtout au début, c'était des personnalités qui avaient eu un comportement immoral. Et le problème, c'est que ça vire souvent au cyberharcèlement, au lynchage, parce que en fait, il y a pas de chacun met son petit commentaire, mais la multitude de commentaires fait que ça devient d'un seul coup une vague et qu'il est difficile d'arrêter. Mais moi, ce que j'essaye de montrer un peu dans mon livre, c'est que c'est vrai qu'en France et notamment dans les médias anglo-saxons, on parle beaucoup de la gauche en disant la cancel culture vient de la gauche. Moi, je crois que cette méthodologie d'ostracisme, elle est pas le monopole de la gauche. Je prends dans mon livre l'exemple d'une chanteuse qui s'appelle Ménel. Elle avait participé à une émission de télécrochet sur sur une grande chaîne française, et en fait des internautes ont fouillé ses comptes Facebook et ils sont tombés sur des publications qu'elle avait postées auprès de ses amis ou qui étaient un peu complotistes vis-à-vis des attentats de 2015 qui sont perpétrés en France, enfin les attentats de Nice en 2016. Et alors c'était des publications qu'elle avait écrites à brûle-pourpoint, qu'elle a regretté, elle s'est excusée. Mais en fait, c'est la droite et la droite radicale notamment qui se sont emparés de ces publications pour demander son exclusion du programme de TF1. Et d'un seul coup, sa vie a été détruite. Elle devait signer un contrat avec un label de musique. Le contrat a été annulé. Sa famille s'est retournée contre elle. Enfin, elle a vécu vraiment une mort sociale et dont elle peine aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, elle est en train de remonter la pente. Mais ça a été très dur. Et je veux dire, ça s'est passé il y a quelques années. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on parle beaucoup de fatwa venue de la gauche et de minorités actives. Effectivement, ça vient toujours, la cancel culture ou le bannissement qui est demandé de plus en plus sur Internet, ça vient surtout de minorités actives. Mais ça peut être des minorités actives de droite comme de gauche. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui on a tendance à parler beaucoup des militants féministes, LGBT, parce qu'on est dans un moment où, en fait, on se rend compte des injustices sexistes, de problèmes d'inégalité salariale et qu'on ne les supporte plus, et donc il y a une prise de conscience. Mais je veux dire, c'est pas le monopole d'un camp idéologique, et je pense que c'est important ça de l'avoir en tête.
Oui, non, c'est très présent dans votre livre d'ailleurs, c'est une chose qui frappe. Vous montrez que la haine en ligne, pour le dire ainsi, aucun camp n'en a le monopole. Mais je me permets de vous relancer directement sur ça parce que ça m'a frappé à la lecture. Est-ce qu'on pourrait dire que si les phénomènes de lynchage, les phénomènes de meute, c'est-à-dire l'agrégation des foules autour du bouc émissaire du jour, qu'il faut lyncher, qu'il faut lapider médiatiquement, ça, effectivement, c'est une forme de méchanceté aussi, c'est-à-dire la part sombre de l'âme humaine qui s'exprime sur les médias sociaux, c'est une chose. Mais est-ce que la stratégie du bannissement, la stratégie de la disqualification morale n'est pas propre à certains égards à une partie de la gauche qui l'a théorisé et revendiqué? Je pense ici par exemple aux Sleeping Giants, ces activistes qui cherchent à dire ne vous associez pas à tel, soit chroniqueur, tel éditorialiste, tel journal, parce que leurs propos sont haineux, entre guillemets. De même, la campagne contre les propos haineux qu'on voit souvent quand on regarde les définitions qui sont proposées de la haine est souvent en sens unique. La haine, c'est le majoritaire par rapport au minoritaire, mais jamais le minoritaire par rapport au majoritaire. On va nous dire, par exemple, que le racisme est possible du majoritaire face au minoritaire, mais le minoritaire ne peut pas être raciste parce que le rapport de pouvoir serait à son désavantage. Est-ce que sur le plan politique, j'entends, la haine en ligne n'est pas néanmoins une stratégie privilégiée quand même par une certaine gauche, ou pour vous, néanmoins, même sur le plan politique, c'est distribué dans tous les camps?
Je pense que c'est distribué dans tous les camps. Après, j'ai pas fait une étude statistique et quantitative, mais je pense qu'il y a des minorités qu'on entend plus effectivement aujourd'hui, et des minorités actives de gauche, on les entend plus peut-être que les minorités actives de droite. Et elles utilisent ces instruments exceptionnels que sont les réseaux sociaux pour gagner une grande visibilité. Mais récemment, j'étais invité à la télé française et on n'était que des blancs autour du plateau quasiment, et je disais, mais elle est où la réalité finalement sociale, ouvrière, la réalité même de la France racisée quand on se balade en banlieue, etc. La France multiculturelle aujourd'hui, elle n'est pas encore visible dans les grandes institutions et sur les plateaux de télévision. Et donc du coup, il y a un sentiment de ne pas être entendu, il y a un sentiment aussi que les institutions ne relaient pas leur colère, ou ne, par exemple pour Je prends un exemple précis, mais dans mon livre, j'ai interviewé à un moment quelqu'un qui avait été victime de violences conjugales. Elle me dit, si j'avais pas raconté sur Twitter que ma plainte n'aboutissait pas, je serais morte aujourd'hui sous les coups de mon ancien compagnon. Parce qu'en fait, il y a une lenteur de la justice française qui ne répond pas à l'instantanéité des réseaux, qui manque de moyens, qui est submergée. Et donc, effectivement, je trouve qu'on est dans un moment de bascule aujourd'hui où les violences policières, où le sentiment de pas être visible dans les grandes institutions de pouvoir, même si c'est en train de changer, je suis d'accord, mais c'est pas totalement visible, fait qu'on entend plus les minorités sans doute actives de gauche. Et du coup, on a tendance à croire la cancel culture, ces fatwas viennent que de la gauche et ils ne supportent pas l'altérité. Mais c'est parce qu'ils ont le sentiment, alors je dis pas que je partage toutes leurs convictions, mais ils ont le sentiment de pas être écoutés et que leur discours n'est pas assez entendu. Et du coup, il y a une forme de radicalité dans leurs propos. Mais j'ose espérer que lorsque les institutions vont prendre le relais, lorsque ces minorités seront entendues, peut-être que les procès se tiendront plus sur les réseaux sociaux et que cette colère sera. Je pense qu'il faut. On peut pas la mettre sous cloche en fait. On peut pas dire il faut couper les réseaux sociaux. Les militantes féministes elles en font trop, etc. Non, il faut écouter cette colère. Et tant qu'on ne l'écoutera pas, elle se manifestera. Et je trouve que les réseaux sociaux c'est un outil formidable de libération de la parole, on a chaque jour des exemples et on peut pas le mettre sous un entonnoir.
Dernière question sur la dimension politique, est-ce que vous diriez la même chose de la colère de ceux qu'on associe, je reprendrai une formule que vous connaissez, à la fachosphère, qu'on extrême droitise, c'est-à-dire des gens qui disent nous on n'est pas fascistes, on n'est pas d'extrême droite, mais qu'on bombarde toujours d'étiquettes comme extrême droite, fasciste, raciste, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous accepteriez à la rigueur qu'une colère puisse venir de cette partie-là, d'une partie de la France qui dit on ne tient pas compte de notre réalité, on est toujours en train de nous diaboliser, on est en train de nous disqualifier, est-ce que vous seriez aussi attentif à la colère de cette frange de l'opinion en vous demandant dans quelle mesure il serait possible de lui faire écho pour qu'elle soit entendue positivement?
Bien sûr, ouais. Alors je pense que moi c'était plus compliqué de ma part parce que j'ai travaillé dans un journal de gauche mais j'ai essayé à plusieurs reprises justement quand des mauvais procès pouvaient être faits à des militants d'extrême droite, ça m'est arrivé d'intervenir. Parce que je pense que, des militants qu'on qualifie d'extrême droite.
Oui, qu'on qualifie, parce que l'étiquette en elle-même est une étiquette péjorative.
Et je suis d'accord. Après, il y a une classification en France malgré tout, on peut parler de droite nationale, mais c'est vrai que le terme extrême choque, mais il y a aussi le terme extrême gauche dans lequel on qualifie tout un champ de la gauche radicale. On met Mélenchon, le Parti communiste dedans. Alors, mais c'est vrai que le terme extrême est péjoratif. Mais je suis d'accord. D'ailleurs, dans mon livre, j'interviewe à un moment un militant, de génération identitaire, quelqu'un qui anime le site F de Souche, qui est un site qui est classé à l'extrême droite et qui d'ailleurs qu'on peut dire d'extrême droite parce que il parle que d'immigration, d'islam et d'insécurité et pas d'autres sujets et ils ont une volonté de lobbying politique. En fait, il me dit, est-ce que vous seriez aussi attentif si on annulait, lorsqu'on annule, par exemple, lorsqu'on bannit du champ médiatique un candidat Front National qui, il y a 15 ans, a fait une blague problématique sur Facebook. Et les médias auront beaucoup moins d'empathie pour lui. Et c'est possible. Mais moi, je crois dans ce livre, c'est ce que j'ai toujours eu dans les tripes, en fait. C'est que je crois qu'on doit pas réduire les gens à des erreurs. On peut pas... la cancel culture, cette culture de l'ostracisme, son essentialisme ni toute capacité de l'être humain à apprendre de ses erreurs, Et en fait, on en commet tous. Et je pense que la colère qui vient de la part de l'extrême droite et même s'ils aiment pas ce terme, etc., il faut l'entendre. Et on peut pas disqualifier leur discours sous prétexte que moi j'en ai toujours été intimement convaincu. J'ai fait de la sociologie aussi. J'ai été voir tous ces militants. Je les ai écoutés. J'ai essayé de relayer leur discours pour comprendre d'où venait cette colère. Parce qu'effectivement, quand on est militant d'extrême droite en France, faut savoir que c'est aussi une forme de mort sociale, parce que voter FN, ça s'accompagne d'une culpabilisation du vote, ça s'accompagne souvent d'un bannissement d'une sphère sociale ou professionnelle, et donc c'est un engagement qui en fait bloque beaucoup de portes. Et en fait, on pourra répondre à, je pense pour moi que le vote d'extrême droite n'est absolument pas une solution, et que on pourra répondre en fait à ce vote qui est en constante progression en France quand on n'a pas des discours disqualifiants ou moraux, mais justement en relayant de manière factuelle, déjà en traitant médiatiquement de manière factuelle l'extrême droite et leur revendication, et en étant à l'écoute de cette colère. Bien évidemment, je suis totalement d'accord avec ça.
Au-delà de la dimension politique, dans votre ouvrage, c'est une chose assez plus que passionnante, en fait tout à fait absolument passionnante. Vous allez à la rencontre de plusieurs personnes qui ont été bannies qui ont subi la culture du bannissement, qui ont subi la haine en ligne, différents profils, des gens marqués à gauche, des gens marqués à droite, des gens de toutes les tendances, de différentes origines. Je me demandais, au fil de vos enquêtes, au fil de vos entretiens, au fil de vos interviews, est-ce qu'il y a un point commun dans chacune de ces histoires, d'abord à l'origine du bannissement et ensuite dans leur capacité à réagir à ces lynchages en ligne? Est-ce qu'il y a des points communs de ces différentes histoires qui nous permettraient de faire une petite sociologie de la haine en ligne?
Je pense que parmi les points communs, c'est que souvent ce sont des... C'est ce que dit aussi l'écrivain Bret Easton Ellis dans mon livre, c'est des vestiges de vie numérique qui ont été postés des années auparavant, qui sont repérés par un influenceur, par quelqu'un, par des minorités actives. Et ensuite, il y a un mouvement de meute qui se met en mouvement sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'indignation, souvent sur des plateformes centralisées comme Twitter, qui permettent ça parce qu'on, en fait, Twitter, c'est comme si c'était Battle Royale. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais en fait, avec les trending topics, on voit en fait les cibles du jour. Et c'est comme si, en fait, chaque camp, en fonction de son identité personnelle ou collective, voyait un ennemi à abattre. Et d'un seul coup, va s'acharner sur lui. Donc, chacun, en fonction de ses convictions, en fonction de son histoire personnelle, va se sentir investi d'une mission punitive. Et donc, ça se passe souvent sur Twitter. Et ensuite, les médias prennent pour argent comptant ce qui se passe sur Twitter. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est pas la réalité sociale d'un pays. Mais du coup, ensuite, les médias, c'est un engrenage pour moi indispensable, parce que s'il n'y a pas de reprise dans les médias, il n'y a pas vraiment de mort sociale, parce que ce sont ces articles-là, ce sont les articles qui vont faire écho de cette colère sur les réseaux sociaux, qui vont entériner la mort sociale. Parce que, en fait, vous pouvez écrire plein de blogs sur le jardinage, sur la cuisine, pour essayer de recouvrir la polémique, vous serez toujours moins puissant qu'un article du Figaro, qu'un article de Radio-Canada, qu'un article du Journal de Montréal, parce que les médias ont ce qu'on appelle un page rank, c'est-à-dire une puissance sur Google très forte. Et du coup, dès qu'ils parlent d'une polémique, en fait, après, eux, ils passent à autre chose. Mais vous restez avec les articles qui vous identifient ou qui vous relient à une polémique. Et en fait, ça va dissuader des recruteurs de vous tout simplement de s'entretenir avec vous pour de futurs emplois. Donc, en fait, c'est pour moi, ça part toujours de quelques minorités actives. Twitter ensuite, où c'est là où se passent les grands pugilats. Et ensuite, les médias qui prennent le relais. Et j'ai essayé de montrer dans mon livre les différents rouages de cette mort sociale moderne aujourd'hui.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Alors, justement, vous évoquez un échange entre Michel Houellebecq, je crois, et Mehdi Mehklat, si je ne me trompe pas, où Houellebecq dit « Faites-vous-en pas une controverse, ça finit toujours par passer. » Et quelques années plus tard, Houellebecq dit « Je ne suis plus certain qu'une controverse finisse par passer. » Vous lisant, je me demandais, est-ce que vous remarquez aussi je dirais pas des stratégies, mais peut-être des postures, des attitudes qui permettent de résister à la tempête, qui font en sorte que même lorsque la tempête arrive, lorsqu'elle frappe, il est possible de tenir tête en se disant « ça va passer, je ne céderai pas, je ne plierai pas » et finalement c'est « la tempête passera et je vais en sortir peut-être un peu abîmé, mais certainement pas lynché, certainement pas socialement condamné ». Est-ce qu'il y a des attitudes que vous avez remarquées d'une manière ou de l'autre dans cet ouvrage qui permettent de résister, autrement dit, aux campagnes de lynchage en ligne?
Ce que j'ai remarqué, moi j'en parle pas dans l'ouvrage, mais ce que j'ai remarqué, c'est que En fait, vous pouvez survivre à un lynchage en ligne si vous avez une communauté qui vous soutient. Il y a des journalistes en France de droite qu'on peut tenir des propos maladroits ou condamner moralement, et en fait ils s'en sont sortis parce que ils ont eu toute une communauté autour d'eux, à la fois leur patron qui les soutenait, et puis des grands acteurs politiques qui sont venus aussi à leur secours. Et du coup, même s'ils recevaient énormément d'attaques, ils étaient immunisés parce qu'il y a une communauté auprès de vous. Et de la même manière, en France, il y a aussi des militantes féministes qui sont pris pour cible, qui sont l'objet de cyberharcèlement. Mais elles se fédèrent et puis elles arrivent entre guillemets à faire corps et du coup à surmonter. Le problème, c'est quand on est seul et qu'on a personne pour nous défendre. J'évoque pas mal de cas dans mon livre où c'est des anonymes aussi, et les anonymes n'ont pas soit un entourage personnel, familial pour les aider. Donc je pense que ça tient beaucoup en fait à votre statut social et votre aussi si vous avez une communauté politique, sociale autour de vous qui va venir vous secourir, venir prêter de... Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les lynchages en ligne, c'est que tout le monde a peur d'intervenir. C'est ce que la sociologue allemande Elisabeth Neumann parle sur la spirale du silence, le fait que on a toujours peur du coût social que ça va représenter d'intervenir, parce que intervenir, c'est prendre le risque d'être éclaboussé à son tour par cette honte. Donc ça représente toujours un coût social. Donc en fait, si vous avez des gens auprès de vous, ce qui est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas, ben vous allez vous en sortir plus facilement. Et après, il y a une fois que vous avez été lynché, humilié publiquement, il y a des personnes qui décident de se battre, qui décident de dire voilà, il m'est arrivé cette expérience, je vais en faire quelque chose et je vais revenir sur scène. Et puis il y a d'autres qui décident tout simplement de s'exiler, de passer à autre chose, voire certains qui pensent à des options définitives. Je pense au suicide par exemple. Il y a deux manières de, mais je pense que le meilleur moyen de se sortir de ça, c'est d'essayer de trouver du sens à cette épreuve. Et par exemple, la chanteuse Ménel, dont je vous recommande les chansons, elle sort un album l'année prochaine où elle raconte son parcours de résilience, ça s'appelle Heal, pour guérir, et elle raconte en fait comment elle a réussi à surmonter cette épreuve. Et voilà, c'est trouver du sens à cette épreuve, c'est le meilleur moyen, je pense, de rebondir aussi.
Alors, il y a le pôle, on pourrait dire, de la haine en ligne politique qu'on a déjà évoqué, les campagnes de diffamation à partir quelquefois d'extraits sur les réseaux sociaux, d'extraits repris sur les réseaux sociaux. Des gens écoutent un extrait d'une minute et demie d'une émission et ont l'impression de tout savoir, se permettent de lyncher. Donc, ce pôle-là, nous le connaissons, mais vous évoquez aussi d'autres dimensions de la haine en ligne qui sont moins politiques. À la rigueur, Ménel, il y avait la dimension politique aussi. Mais vous avez vous parlez d'un exemple qui... mais absolument pas politique, c'est ce qu'on appelle le Star Wars Kid. C'est-à-dire ce jeune homme qui jouait au sabre laser, pour le dire comme ça, devant son écran, ça s'est diffusé. Pourriez-vous nous rappeler un peu cette histoire qui, elle, n'est pas du tout politique? En fait, elle est le degré zéro de la politique, et c'est par ailleurs une forme de campagne d'humiliation planétaire. Qu'est-ce qui se joue dans un événement comme celui-là, où la charge politique et idéologique est pourtant zéro? Comment expliquer que la haine frappe même dans de telles circonstances?
Pour résumer, c'était un jeune Québécois qui en novembre 2002, il était âgé de 14 ans, il s'était filmé en train de reproduire un combat au sabre laser dans son école. Il s'était enregistré il avait laissé la cassette vidéo dans le studio de son école. Et c'est vrai que la vidéo pouvait paraître un peu maladroite, sauf que en fait des camarades de classe assez méchants et ont mis en ligne la vidéo. C'était les débuts de YouTube, donc c'est devenu instantanément viral. Il a fait l'objet, je crois que la BBC disait que c'était la vidéo la plus visionnée d'Internet en 2006. C'est-à-dire que on parle de milliards de vues. Et c'était un adolescent, donc il n'était pas armé psychologiquement pour faire face à un tel déferlement de haine. Il est devenu aussi l'objet de parodies dans des séries américaines comme South Park, les Griffins, etc. Et en fait, comment on peut l'expliquer? C'est que, en fait, des fois on rit aux dépens de quelqu'un. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on participe à son lynchage. Je pense que les gens qui se sont amusés et qui l'ont lynché se rendaient pas compte qu'ils lui faisaient du mal. C'est comme il y a beaucoup de ce qu'on appelle les mèmes, c'est-à-dire des détournements qui deviennent, en fait, vous faites une interview et puis vous avez un mot maladroit, les gens vont s'en amuser et vont sectionner cette petite, et ils vont en faire un gif, et vous allez, d'un seul coup, vous allez servir à ponctuer, vous devenez un smiley en fait, vous servez à ponctuer des conversations. Et lui, c'est un peu ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que c'est devenu un gif, dès qu'on allait sur Messenger, dès qu'on allait sur les plateformes de réseaux sociaux, on pouvait utiliser son image pour animer, pour ponctuer, pour montrer en fait nos émotions. Il est devenu un smiley vivant. Et en fait, je raconte oui son histoire. Ce bonhomme et enfin ce personnage est extraordinaire parce que il a vécu un déferlement de haine et qu'il n'avait pas mérité parce que en plus il n'a même pas mis lui-même il a même pas diffusé lui-même la vidéo. C'était à ses dépens. Et il a réussi à surmonter tout ça. Et il a ensuite s'est exprimé dans les colonnes d'un magazine québécois en disant ben si je sors de mon silence aujourd'hui, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la quête de sens, si je sors de mon silence aujourd'hui, c'est pour dire que à tous ceux qui vivent la même chose, tenez bon. En fait, il y a la lumière au bout du tunnel, il faut vous accrocher et il faut vous accrocher à votre entourage et en fait, vous pouvez tous survivre, enfin du moins il faut essayer de survivre et de surmonter à tout ça. Enfin, de donner du sens à tout cela, et on peut survivre à un cyberharcèlement. Et il a voulu faire de son épreuve, qui a été une épreuve et une humiliation terrible, une leçon à la planète entière. Et je trouve que son geste est vraiment exceptionnel.
Alors, il y a, vous avez évoqué Twitter, quand on parle des réseaux sociaux, on a en tête souvent Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce que un de ces grands réseaux se distingue particulièrement comme lieu de la haine en ligne, ou est-ce que finalement elle se distribue assez également sur les trois grands réseaux, disons ça comme ça?
Je pense qu'elle se distribue également parce qu'en fait c'est dans la nature humaine, on a tous les gens n'ont pas par nature un bon fond en fait. C'est je raconte en France en fait jusqu'en 1848, il y avait des humiliations publiques où on était accroché à un pilori et en fait les passants pouvaient défiler devant vous et pouvaient s'abstenir en fait de vous cracher dessus ou de vous insulter. Mais la plupart du temps, la personne qui était humiliée et accrochée à un pilori, elle subissait les crachats, les vivas de la foule et les insultes. Donc il y a une tendance assez malveillante dans la nature humaine malheureusement, et donc sur internet ça vient de plein de choses. Ça peut venir de la frustration, ça peut venir du fait qu'on traverse une crise économique et qu'on vit dans une période anxiogène. Donc les gens, c'est la théorie de René Girard, mais une société se fédère que souvent par le rejet d'un tiers. Et donc il y a besoin d'un bouc émissaire pour fédérer, pour coaguler une société malheureusement, et donc du coup ça, je pense que ça se répartit de manière égale, sauf que Twitter c'est beaucoup plus visible parce que c'est une plateforme qui est centralisée, et c'est ce que je disais tout à l'heure en faisant l'allusion avec le film Battle Royale, c'est qu'on voit en fait les cibles. Et sur Facebook en fait vous pouvez être pris pour cible, mais ça sera pas visible de tout le monde. Tandis que, en fait, sur Twitter, comme c'est une plateforme centralisée dans laquelle sont réunis tous les médias et tous les acteurs aujourd'hui et toutes les célébrités, en fait, votre humiliation, elle est visible aux yeux de tout le monde. Et en fait, une fois que vous êtes désigné comme une cible, la cible du jour, tout le monde le voit et ça va vous rentrer dans un engrenage maléfique parce que les médias vont se sentir obligés d'en parler. Et puis après vous en sortez plus parce qu'après les chaînes d'infos on continue vont en parler à leur tour, et puis après ça va faire des débats, et puis en fait vous rentrez dans une spirale infernale. Et je pense que c'est pas qu'il y a plus de haine qu'ailleurs, mais c'est qu'elle est plus centralisée et visible sur Twitter.
Alors, dans votre ouvrage, la question n'est pas abordée comme telle, je dirais, bien qu'elle soit partout présente. C'est ce que j'appellerais le fantasme de la surveillance généralisée. Le 20e siècle nous a permis de connaître le totalitarisme qui vient d'en haut, disons ça comme ça, c'est-à-dire une forme de prétention au contrôle social absolu, jusqu'au contrôle des pensées dans la mesure du possible. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers ce que vous appelez la haine en ligne, à travers les effets de meute qui se multiplient, où on voit de plus en plus, justement, il y a le lynché du jour, il y a le lynchage du jour, et il y a aussi non seulement cette obligation de d'être vertueux, mais il faut tous participer envoyer des signes ostentatoires de vertu, parce que silence is violence, comme on nous dit, parce que se taire, c'est déjà être dissident, parce que ne rien dire dans une campagne, c'est être perçu. On se dit, ah, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière son silence une forme de désaccord? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surveillance généralisée qui réactive quelque chose comme une matrice totalitaire dans l'univers tout à fait fascinant des médias sociaux? Est-ce qu'à travers ça, il n'y a pas, autrement dit, une forme d'abolition des derniers domaines de la vie privée, de la possibilité d'une ne pas être dans la meute, de ne pas participer à ce que Eli Halevi appelait la fabrication de l'enthousiasme collectif?
Oui, sans doute, oui. Je pense que les réseaux sociaux encouragent un climat de guerre civile. Et tout se passe, en fait, tel que l'avait prophétisé Gilles Deleuze, j'en parle dans mon livre, lorsqu'il parlait du passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. Il disait qu'ils fonctionnent plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. On voit que c'est comme si on était enfermé dans un panoptique géant. C'est cette prison où en fait le surveillant peut voir tout ce qui se passe, il peut voir en tournant autour de sa cage, il peut voir en fait toutes les cellules des prisonniers. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout le monde surveille tout le monde et effectivement la moindre erreur se paye cash. Et je pense que les réseaux sociaux dont en fait leur modèle social repose sur la conflictualité et l'affrontement. Et c'est vrai que ils poussent en fait à surveiller chacun, à dénoncer chacun. Et dans mon livre, j'interviewe le sociologue Gérald Bronner et il dit, en fait, le problème, c'est qu'on a, il cite une étude de la revue Science, on a tous tendance à nous croire moralement plus supérieurs qu'autrui. Et du coup, en fait, il dit toutes les conditions sont réunies sur les réseaux sociaux pour que une course à l'échalote de la pureté morale et pour que nous nous corsetions les uns les autres. Et c'est vrai qu'on observe ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tous devenus des personnalités publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée. Aujourd'hui, le meilleur moyen en fait de survivre, c'est de couper Internet. Enfin, disons pour survivre au lynchage, avant en fait, on allait sur Internet pour répandre, pour se confier sur nos secrets honteux, pour libérer notre parole. Et aujourd'hui, pour survivre à un lynchage, faut couper Internet et s'extraire de ça. Et en fait, on est tous devenus des personnalités publiques. Et le moindre de nos gestes, c'est ce que je montre un peu dans mon livre, peut être utilisé par des militants, par des minorités, par quelqu'un qui vous en veut, ou même par votre employeur pour vous virer du jour au lendemain. En France, il y a un sondage, 7% des salariés qui ont été licenciés en raison de propos douteux, de vestiges de vie numérique qui ont été publiés des années auparavant. C'est-à-dire que, en fait, on s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on publie nous rend vulnérables, en fait. Et notre vie sociale est devenue une vie sociale à haut risque.
Alors, vous évoquez une question qui me semble fondamentale, on se rapproche de la fin de l'entretien, je m'en serais voulu de ne pas l'aborder, c'est la question du droit à l'oubli, hein, c'est-à-dire avec Google et ainsi de suite, c'est un droit qui est de plus en plus revendiqué, est-ce un droit, ça reste à voir, mais de plus en plus de gens disent, on devrait avoir le droit, autrement dit, de maîtriser minimalement son identité numérique. On devrait avoir le droit minimalement de définir ce que Google peut retenir de nous pour éviter justement d'être enseveli sous les débris de notre vie numérique antérieure. Est-ce que la question du droit à l'oubli pour vous est une réponse politique et juridique crédible à cette tentation de la surveillance généralisée, à cette haine en ligne qui se déploie partout? Est-ce que le droit à l'oubli est une réponse possible pour réagir à ce contexte nouveau qui s'impose à nous?
Oui, enfin, il y a plusieurs solutions, mais si on reste sur le droit à l'oubli, je pense qu'effectivement, c'est une question fondamentale, parce que Google agit comme une instance suprajudiciaire qui, vous l'avez bien décide du moins, qui a le droit de se faire oublier ou non. Et elle a pas, enfin, pourquoi Google s'accorde ce droit en fait? Ils n'ont aucun droit à ça. Alors il y a un problème. Et aujourd'hui, par exemple, en France, on a ce qu'on appelle la Commission nationale d'informatique et des libertés, qui normalement doit permettre à chaque citoyen de faire appel à elle pour rentrer dans un bras de fer avec Google et faire disparaître des contenus infamants. Mais dans les faits, eux-mêmes sont submergés en fait. Et Google répond souvent de manière automatique aux demandes des citoyens et et c'est vrai qu'on est un peu démunis par rapport à ça. En fait, je raconte dans mon livre que tout part. Enfin, il y a un droit à l'oubli en Europe, ce qui n'est pas le cas, je crois. Vous me contredirez si je dis une bêtise aux États-Unis et au Canada. Mais en fait, il y a l'histoire d'un quinquagénaire dont je raconte qui habite en Espagne. Et en fait, lui, il avait une vieille annonce de vente aux enchères qui polluait en fait sa réputation numérique, parce que dès qu'un client voulait s'adresser à lui, il tombait sur ce vieil article qui disait qu'il avait mis aux enchères une entreprise. Et donc, il s'est adressé au journal local espagnol qui a refusé. Et ensuite, il s'est adressé à Google. Et Google a dit non. Et donc, ensuite, il s'est adressé à la Cour européenne. Et c'est vraiment David contre Goliath. C'était un combat perdu d'avance. Et en fait, il a réussi à le gagner. Mais la Cour européenne ne lui a pas seulement donné raison. Elle a dit, écoutez, monsieur Costera, on va faire en sorte que les 500 millions de citoyens européens puissent aujourd'hui demander via un formulaire la désindexation des contenus. Bon, alors grâce à lui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Costera. En Europe, on peut demander d'enlever un contenu, mais souvent, en fait, Google répond négativement. Et en fait, vous pouvez demander une fois, deux fois, trois fois. Google continue d'agir comme une sorte de golem qui a tous les droits. Et en fait, on est assez démunis par rapport à ça, c'est vrai.
Alors, on évoquait la question du droit à l'oubli comme manière de répondre, de réagir à cette nouvelle souveraineté des grands empires numériques, une manière de restaurer le pouvoir minimal de l'individu, un contre-pouvoir minimal pour l'individu pour être maître de son identité numérique. Mais plus largement, le phénomène que vous identifiez, la haine en ligne, est-ce qu'il y a moyen d'imaginer une manière de la faire refluer, d'assécher le marécage de la haine en ligne, disons ça comme ça? Est-ce qu'il est possible de véritablement mener campagne contre la haine en ligne, ou est-ce une bataille perdue d'avance?
Alors, je ne sais pas si c'est une bataille perdue ou gagnée d'avance, mais j'ai un peu réfléchi. Je pense, en fait, il y a plusieurs solutions, enfin, il y a plusieurs choses à imaginer. Déjà, je pense que les plateformes, ces grandes plateformes des réseaux sociaux qui, en fait, tirent profit, exploitent la conflictualité et la polarisation de la société, elles peuvent revoir leur business model. Elles peuvent allouer plus de moyens à la modération. Elles peuvent réfléchir à intégrer à leur interface la présomption d'innocence. Pour l'instant, c'est pas du tout intégré, mais en fait, c'est un pilier de notre état de droit et qui, aujourd'hui, quand vous êtes accusé à tort, vous n'avez aucun moyen de vous défendre sur ces plateformes. Donc, ils peuvent réfléchir à tout ça. Ça coûte de l'argent, mais ils peuvent le faire. Ensuite, la deuxième solution, c'est qu'on peut pas, la justice, elle peut pas reposer sur des entreprises privées qui relèvent du droit américain. C'est pas possible. Parce que, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous les obligez à agir, ils utilisent des algorithmes et ils surcensurent les propos et du coup, ils menacent notre liberté d'expression. On peut pas reposer sur eux. Mais par contre, on peut demander, en fait, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Avia contre la haine en ligne, qui a été, entre guillemets, retoquée par le Conseil constitutionnel, elle n'a pas été adoptée. Mais en fait, cette loi était intéressante sur un point, c'est qu'elle demandait la création d'un parquet spécialisé contre la haine en ligne. Le problème, c'est qu'il faut pas que ça soit une coquille vide. Il faut, en fait, donner des moyens policiers, enfin des moyens procéduraux, humains, financiers, pour que la justice puisse répondre. Parce qu'un tweet passe à part en une minute, en deux secondes, et en fait la justice des fois elle met un, deux ans pour prendre en compte des plaintes. Et donc du coup, tant qu'il y aura cette dichotomie entre une lenteur et l'instantanéité, en fait il y aura des gens qui voudront se faire justice eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et enfin le dernier point, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a tous le pouvoir de changer les choses. Alors ça peut paraître un discours béat de gauchiste parisien, mais on a tous le pouvoir de changer les choses à notre petit niveau. C'est-à-dire que plutôt quand on voit quelqu'un qui est pris pour cible, et même si c'est un adversaire idéologique, de pas rajouter une pierre, de pas rajouter encore un commentaire, parce qu'en fait la somme de ces commentaires théorise la personne. Je pense que dans mon livre je montre le traumatisme que ça représente, et je pense qu'on peut tous s'abstenir de participer à ces campagnes de meute numérique, parce que personne ne mérite une humiliation publique, personne ne mérite ça en fait, et je pense que c'est le discours de mon livre. Et je pense que la remise en cause des géants du web ne doit pas exonérer de la responsabilité qu'on a chacun devant notre écran.
Alors David Doucet, sur cet appel à la civilité, je rappelle le titre de votre ouvrage, La haine en ligne, qui est paru chez Albin Michel. Je vous remercie pour votre passage, je vous démène le monde.
Je vous remercie aussi.
Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à La Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bocoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.